En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien. Alors nous commençons, nous poursuivons. Et Jean-Pierre Bois avait prévenu qu'il ne pouvait pas être là. Mais il a envoyé un texte très court, un résumé de son intervention. Et Michel Battesti va nous le lire. Elle a promis de ne pas multiplier les incidents.
Bon, alors, donc, Jean-Pierre Bois, qui s'excuse, parce qu'il est au Cambodge, là, donc il ne peut pas être partout. Alors, il a fait une chose qui s'appelle les Invalides, un hôpital modèle de la monarchie. Pourquoi il y a l'effet Larsen ? Larsen est invité dans notre truc. Voilà, Larsen est bon, peut-être en mettant plus loin. À mon avis, c'est pire, oui. Donc, prête, pareil. Quand Larsen est là, c'est très compliqué. Peut-être, là, ça va ? Pas trop, parce que ça fait un écho. Enfin bon. La France moderne, donc, n'a pas manqué d'y tirer d'hôpitaux. Il y a l'Hôtel Dieu, les Charités, Dominicales et autres. Surtout après la création des hôpitaux généraux. La question est ici posée de savoir en quoi l'Hôtel des Invalides se présente comme un hôpital modèle. Alors l'Hôtel des Invalides, première chose, c'est une chose du roi, de Louis XIV. C'est une création royale qui est intervenue en 1674 et qui est directement placée sous l'autorité et le contrôle effectif du roi, qui va le visiter plusieurs fois comme ses successeurs. Alors, à l'image du roi, bon, vous connaissez les Invalides, c'est un palais, c'est un lieu de grandeur, c'est construit à peu près en même temps et par les mêmes architectes et décorateurs que le château de Versailles. C'est une image du roi à Paris, un peu à l'écart des anciens palais royaux, comme le Louvre, et de la ville. C'est une image grandiose, aucun autre hôpital du royaume n'a la même grandeur. Et là, il faudrait évidemment décrire le bâtiment, les décors, les peintures, etc., les sculptures, les jardins, tout autant que l'administration et même de l'institution, dirigée par son gouverneur et son conseil d'administration, qui ne rendent compte qu'au roi. Alors, deuxième point de caractéristique, l'Hôtel des Invalides est un projet global. En cela, il offre une différence sensible avec tous les autres hôpitaux du royaume, qui sont destinés à soigner les malades ou secourir les pauvres. Mais pourrait-on dire, sans plus, voilà, l'hôtel est à la fois une maison de retraite pour les anciens serviteurs du roi, estropiés ou caducs, qui achèvent leur vie dans un bon cadre matériel. Alors, je rajoute qu'il n'a pas mis, mais c'est réservé aux soldats qui ont eu des temps longs, de 10 à 18 ans d'engagement. C'est une caserne avec les régalements et un service militaire. Il y a des exercices, il y a des gardes, des cérémonies, une discipline. Les Invalides portent des armes, barbe, le briquet, c'est un sabre court, et un uniforme. C'est aussi une manufacture, puisque les Invalides, encore un jambe, travaillent dans des ateliers enluminure, peinture, cordonnerie, tapisserie, etc. L'activité est la règle, seul soutien de la dignité, mais aussi pilier de la santé. C'est aussi un couvent, et la piété est la règle. Il y a l'instruction religieuse, catéchisme, la messe, la conversion obligatoire des réformés, notamment après, évidemment, la fin de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a une lutte sévère contre le blasphème, ce qui, évidemment, pour des anciens soldats, n'est pas une tâche facile, puisqu'ils le pratiquent allègrement. C'est aussi un hôpital, avec des installations matérielles grandioses, en espace, en lumière, en confort, et ils ont même jusqu'à un lit individuel, ce qui est unique en France, et unique pour une garnison militaire. C'est bon ? Là, oui, l'effet Larsen a disparu. Larsen, Au revoir. La fonction médicale de l'hôpital est indissociable de l'ensemble des autres fonctions hospitalières de l'institution, mais la discipline, le travail, la prière, mais aussi le confort matériel et l'alimentation régulière forment un tout contribuant à rétablir la santé des malades, des blessés et autres impotents. Et ça réussit très bien, puisque hier on parlait de l'espérance de vie. Là, vous avez des soldats en moyenne qui sont donc... aux invalides meurent à plus de 68 ans, donc pour à la veille de la Révolution, ce qui montre quand même quelque chose. Et en 10 février 89, il y en a un qui meurt à 97 ans. Hein, donc ça montre qu'ils sont quand même bien. Et ça, il était là depuis 42 ans, donc la vie ne devait pas être monstrueuse dans cet endroit. Troisième point, l'hôpital de l'Hôtel des Invalides a toujours bénéficié de la meilleure médecine et des meilleurs médecins du royaume. Dès la fondation de l'institution, elle est entièrement libérée des contraintes archaïsantes de l'Église et de la faculté de médecine. Dixit. Être formée aux Invalides donne la maîtrise en médecine comme en chirurgie. Et à l'origine, médecins et chirurgiens des hôpitaux des Invalides y logent et n'exercent pas ailleurs. Au XVIIIe siècle, ils le feront à l'extérieur, mais bon, pas avant. Les médecins et les chirurgiens bénéficient, si on peut dire, d'une population de patients idéale pour mener leurs propres recherches, habitués à obéir, habitués à la violence des combats, de ce qu'on pourrait appeler la violence de la médecine militaire, avec les traitements dits héroïques, notamment. Sans famille qui viendrait se plaindre en cas d'accident, ils offrent un échantillonnage exceptionnel de pathologies, et ils ont fait des essais sur les hommes, y compris des actes chirurgicaux assez étonnants. Alors, c'est une citation de Jean-Pierre Bois, hein, donc à partir de texte, à partir de sa thèse. Très vite, l'hôpital de l'Hôtel des Invalides a réuni les plus grands médecins, chirurgiens et apothicaires du royaume. Je le crois un peu optimiste sur les médecins, parce que hier j'ai cherché sur Internet Pierre Malouet, Jean-Joseph Munier. Je dois avouer que je ne les ai pas trouvés. Il faudrait chercher donc dans les textes écrits. Par contre, j'ai trouvé les chirurgiens, Sauveur François Morand, Raphaël Bienvenu Sabatier, mais aussi Louis-Claude Cadet de Gassicourt, Antoine Parmentier, donc les pharmaciens, donc, qui, en dit-il, tous ont laissé leur nom et leurs œuvres dans l'histoire de la médecine. Ils sont aussi assistés par les meilleures infirmières, ce sont les sœurs grises, les filles de la charité de Saint-Lazare, qui est universellement connue, au point qu'en printemps 1794, le gouvernement révolutionnaire va s'incliner devant leur qualité et elles ne seront pas guillotinées, ce qui est quand même un signe aussi de reconnaissance. Il faut dire, un petit détail qui ne dit pas, les médecins, les chirurgiens sont sous leurs ordres. C'est intéressant. L'institution a eu des limites, hein, qui sont celles évidemment du temps, les limites médicales. Si l'anatomie, la thérapeutique, la pratique chirurgicale ont énormément progressé au XVIIIe siècle, il faut nuancer. Il ne faut pas oublier que la médecine ne guérit pas encore tout. Je ne suis pas sûre qu'on dise tout maintenant, mais enfin bon, on ne guérit pas encore tout. Et que certaines opérations restent des expériences souvent teintées des ignorances qui existent encore. Les grands progrès de la médecine datent plutôt du 19e que du 18e siècle. Alors, les capacités hospitalières ont été mises à mal par le succès même de l'institution, incapable matériellement de faire face au nombre croissant de pensionnaires admis à l'hôpital, les manufactures ont fini par disparaître, la discipline militaire s'est affaiblie, les soldats rétablis ont été envoyés à l'extérieur, notamment dans les garnisons détachées dans les fortifications frontalières, et l'hôtel est devenu un hôpital de fin de vie, plus qu'un lieu de retraite. Mais c'est en même temps là l'origine d'une politique sociale exemplaire de la monarchie qui prolonge la pratique médicale. C'est en faveur des pensionnaires de l'hôtel qu'ont été créées les premières pensions de retraite du royaume, 1764, donnant un modèle suivi par d'autres institutions, la ferme générale, et étendu à la France par la Constituante. Mais c'est là, évidemment, un autre sujet d'histoire purement sociale qui ne rentre pas dans notre sujet. Je voudrais juste rajouter une petite chose parce que je lui ai posé des questions, puisque moi je suis quand même toujours obsédée. Dans son texte, il fait allusion à une soixantaine de fous. Donc je voulais savoir ce que pouvaient être les fous dans les Invalides. Et il lui disait qu'ils ont eu la chance d'avoir, et c'est là où il est absolument, donc en discutant, contre le point de vue de Michel Foucault, sur le fameux enfermement, etc. Là, en fin de compte, ils avaient des droits à des cellules individuelles et ils étaient fort bien traités, je veux dire, avec des lits, des vrais lits, c'est pas les paillasses, on n'est pas à Bicêtre. Hein. Donc, mais malheureusement, dans ses recherches, dans les sources, il n'a vraiment étudié que l'institution des Invalides. Il n'a pas le volet médical, qui sont peut-être, je ne sais pas où sont les archives, il faudrait regarder ça de près, peut-être à Limoges, mais lui, il n'y a pas accès, il n'y a pas eu non plus, ils n'y sont pas au service de la défense. Voilà, c'est tout.
Merci.
Il faut maintenant...
C'est vous appuyer, c'est...
C'est bon ? Oui. Oui, intervenir, vous me faites une double transition par rapport à ça. Alors, actuellement, l'institution... Alors moi, je suis à Percy, je suis psychiatre, et je suis sur le... Je travaille dans le groupe qui construit le nouveau projet des Invalides, et c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cette part de l'histoire de l'institution nationale des Invalides dans l'hôtel national des Invalides, l'institution étant l'hôpital actuellement. Et actuellement, donc le service de santé a été sollicité par le ministre de la Défense parce que l'institution nationale des Invalides était très menacée au regard des standards médicaux, non pas des compétences, mais dans un établissement classé, sur le plan du centre chirurgical, etc. Il y a un service de MPR actuellement, un centre chirurgical. Il y a le centre des pensionnaires qui existe toujours, hein, la vocation première. Et quelques petites structures connexes. Et le projet actuellement qu'on a soumis et qui a été validé au niveau du ministère de la Défense et qu'on est en train de construire, on espère qu'il sera bien lancé, y compris sur le plan de l'infrastructure en 2017, c'est de construire un centre de réhabilitation post-traumatique pour les soldats, les victimes d'attentats terroristes, les agents de l'État blessés dans l'exercice de leurs fonctions et le territoire de santé, tout ça étant un peu priorisé dans la façon dont c'est envisagé, qui va comprendre, à côté du service de rééducation fonctionnelle qui perdurera, un service de psychiatrie qui prendrait en charge les problématiques au long cours, je dirais, de ces patients psychotraumatisés avec des problèmes de désocialisation, de difficultés relationnelles, plus leur détresse psychique propre à ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc ça c'est... Alors on reviendrait, parce que moi j'ignorais totalement ce que vous venez d'énoncer à la fin de cette présentation, qu'il y avait déjà une sorte d'antécédent par rapport à la prise en charge psychique de soldats vieux ou pas vieux, je ne sais pas. Mais voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas, on est plutôt effectivement dans une logique, je dirais, de permettre à des personnes en difficulté de se réinsérer dans leur vie sociale, dans une vie professionnelle, etc. Et l'autre aspect que j'oubliais, c'est aussi dans le nouveau projet la construction d'une maison d'accueil spécialisée pour les jeunes soldats polyhandicapés. Il y a une discussion avec le général gouverneur des Invalides qui souhaite plutôt que tout se passe dans un même lieu, le centre des pensionnaires, les très anciens, les jeunes soldats polyhandicapés. On a une discussion technique un peu contradictoire sur ce sujet-là parce que nous, on souhaite qu'il y ait un environnement adapté à la tranche d'âge aussi. Avec voilà. Voilà donc le prolongement pour l'actualité des Invalides.
Je vais juste répondre, c'est que vous avez vu, là, il y a l'histoire on les fait travailler, quoi. Il y a les manufactures, ce qui est quand même dans le système pour les réintégrer socialement. Alors, eux, c'était pas dans cette idée-là, c'était dans une idée de soins, et de faire en sorte qu'ils aient une activité. Enfin, ils avaient toutes sortes d'activités, ce qui quand même correspond à...
Oui, mais si on ne fait plus ça, ça se faisait il n'y a pas si longtemps dans les hôpitaux psychiatriques, si on ne fait plus ça, on a quand même beaucoup d'activités qu'on dit de médiatisation, si vous voulez, qui permettent qui aident au rétablissement d'un lien relationnel, voilà. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'une activité, il va y avoir tout un... j'avais toute une activité sociale, relationnelle, qui est très importante chez les personnes qui prennent des psychotraumatismes, de guerre ou pas d'ailleurs, dont l'un des effets est quand même de contribuer à un vécu d'isolement, une difficulté dans le lien, l'explosion parfois des structures familiales. Voilà, donc ces activités sont importantes pour nous dans le soin, aujourd'hui encore.
Et oui, mais justement, ça n'a rien de nouveau quoi, sous le soleil. Mais en même temps, parce que vous m'aviez posé la question, l'Institut des Invalides ne dépendait pas du service de santé, dépendait du ministère de la Défense. Il dépend toujours pas. Voilà, non, c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Ça dépendait du roi. Et maintenant, ça dépend du ministre. Enfin, je veux dire,
anciens combattants.
Voilà, d'anciens combattants. Donc, c'est assez intéressant de voir l'espèce de permanence et d'impossibilité, finalement, d'intégrer. Voilà.
Très bien. C'est parfait. Je vous félicite.
Vous avez parlé de Minier.
Appuyez, là.
Alors, Minier, c'est un médecin de... Minier, c'est un médecin
de la... de la fin de la de l'Ancien Régime et qui poursuit jusque sous la Révolution. Et c'est un graphomane. Il écrit en permanence, il publie des lettres. Sur le Gallica, vous trouvez des reproductions de ces textes. Et notamment, il s'occupe beaucoup du traitement de la prostitution. Il s'occupe de la prostitution, des maladies vénériennes.
Oui, non, parce que là, il l'a pas dit. Enfin, je l'ai pas dit dans le texte. Enfin, il y a un truc spécial. Enfin, il mélange un peu tout, les vénériens avec ceux qui ont la gale, alors que normalement, dans les hôpitaux, vénériens et galeux sont mis à part.
Avant la construction de l'hôpital du Gros Caillou, ça a été le centre où on mettait les vénériens de la garnison de Paris, notamment des gardes françaises.
Et l'autre, c'est Pierre Malouet, le médecin soi-disant célèbre. J'ai pas trouvé Pierre Malouet. Mais alors, à moins que ça soit le Malouet hyper célèbre. Enfin bon, j'ai pas cherché.
Bien.
Oui,
je vous en prie.
Tous ces pensionnaires étaient célibataires ou bien leurs femmes accompagnaient ?
Oui, de toute façon, dans les armées, à cette époque-là, les soldats ne sont pas mariés. Et ils sont même interdits d'être mariés. Ils ont des fois des femmes.
Ce n'est pas interdit.
Ce n'est pas interdit,
mais c'est très peu pratiqué. Ouais, voilà. Très peu.
Ce sont des célibataires.
D'où les histoires de prostitution dans l'hôtel des Invalides. Tous les jours, on fait la chasse aux prostituées qui sont dans les Invalides. Il y a même des punitions prévues pour les... Et on dit même que, vous parliez des lits uniques, c'est un peu trop... il y a des punitions pour ceux qui sont trouvés en compagnie de femmes dans leur lit, et d'autres qui sont trouvés avec des hommes.
Oui. Non, les armées là-dessus ont toujours été très...
Pardon, je me permets d'intervenir, alors que ce ne sont pas du tout mes périodes, mais il se trouve que j'ai assisté à d'autres colloques, et notamment sur justement les Invalides, ce qui est actuellement le professeur Elisabeth Balmas de Villetaneuse et le professeur Joël Coste, qui est à l'EPHE, qui ont étudié des fiches de malades et qui vont publier là un ouvrage très intéressant sur justement les conditions d'accès. Et pour enchaîner sur la question sur les célibataires, quand ils n'étaient pas célibataires, ils n'avaient pas le droit d'aller aux Invalides, ils étaient renvoyés dans leur famille. On leur disait qu'ils avaient une femme et que donc ils n'avaient pas besoin de solliciter l'institution.
Ils sont déracinés au niveau social. C'est-à-dire c'est vraiment l'ancien combattant qui ne peut pas retourner dans sa famille, qui n'a plus de famille, quoi. Le problème. Mais du coup, l'État ne les laisse pas tomber non plus. Donc.